instinctif, superficiel, empressé, mais un regard posé, responsable, nous portant à une prise de conscience de certaines réalités qui vont contribuer à nous sauver. Regardez à la croix où Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Dans l'Écriture, il y a de très nombreuses représentations, préfigurations symboliques du sacrifice de Jésus. En commençant dans l'Éden, où pour couvrir la honte d'Adam et d'Ève, l'Éternel lui-même a exécuté un sacrifice. Ça commence déjà là, dans les premières pages de la Genèse. Et puis, le sacrifice que Abel offre à l'Éternel. Pourquoi sacrifie-t-il, eh bien, un bétail de son troupeau? La Bible nous le dit dans Hébreux 11, c'est par la foi. La foi l'a éclairé sur cette dimension d'un sacrifice avec une effusion de sang. Et tout au long des Écritures, il y a des démarches, il y a des attitudes. Il y a bien sûr celui qu'Abraham offre en la personne d'Isaac. Il y a ce bois qui est jeté dans l'eau amère de Marat et Moïse ordonne qu'on jette l'eau et l'amertume est enlevée. Tellement de symboles, la farine que Élisée ordonne qu'on jette dans le pot où il y a eu un potage absolument imbuvable, et cette farine qui s'obtient par le brisement du blé nous parle des souffrances de Jésus. On pourrait énumérer tout au long des Saintes Écritures le message du sacrifice de Jésus. Ce message est dans toute l'Écriture, que le Seigneur soit béni, et il y a de nombreux exemples où simplement le fait d'un regard dans la bonne direction a engendré la guérison, le salut, la grâce, la délivrance, le relèvement. Moïse a ordonné que l'on passe avec en haut d'une perche un serpent de bronze d'airain, et en disant « Quiconque regardera en haut de cette perche, portera les regards sur cette sculpture, ce serpent d'airain, aura la vie sauve. » La mort qui coulait dans les veines de ces gens se retire brusquement et ils ont la vie sauve grâce à un regard. Grâce à un regard porté sur le sacrifice de Jésus. Un des deux brigands confirme la chose. Lorsqu'à un moment donné, il se passe chez lui quelque chose de céleste, de divin, la foi vient et brusquement, il regarde à Jésus. Avec une prière instante, mais en même temps très informative pour nous, « Souviens-toi de moi !» Lorsque tu reviendras dans ton règne, il vient de comprendre que ce Jésus trentenaire ne va pas mourir d'une manière défaite et dramatique. Ce serait là la fin d'une belle histoire. Non, il sait qu'il va ressusciter, il sait qu'il va revenir dans sa gloire. Alors la foi l'éclairant sur ces glorieuses réalités, il adresse cette prière. Et puis en bas, au pied de la croix, le centenier romain. La Bible nous dit le centenier romain qui était vis-à-vis de la croix. Son regard se porte directement sur le sacrifié, sur Jésus-Christ. À un moment donné, va s'exclamer, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Différemment de certains qui sont venus vers Ponce Pilate en disant, tu as écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Et, n'écris pas ça, rectifie. Écris plutôt, il a dit qu'il était roi des Juifs. Ils ont le regard au-dessus, pas sur Jésus, mais au-dessus, dans des élucubrations pseudo-théologiques. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils ont un cerveau tordu, et ils ont donc des raisonnements, des méandres sinueux, et ils sont là dans des considérations absolument inutiles. Le Fils de Dieu est en train de donner sa vie pour eux, mais eux ne s'en préoccupent nullement. Ils sont préoccupés par des questions oiseuses, stériles et inutiles. Ils regardent plus haut que là où ils devraient regarder. Et puis d'autres, ils vont regarder trop bas, trop bas. Ils vont tirer au sort les vêtements de Jésus. Ils vont se partager ses vêtements, pardon, et ils vont tirer au sort sa tunique faite d'une seule pièce. Ils ne se préoccupent pas de ce qui est en train de se passer sur la croix où Christ est en train d'expier les péchés de l'humanité, mais ils sont préoccupés par des bénéfices matériels et très très limités, très éphémères. Chaque fois que les yeux se sont portés sur le sacrifice de Jésus, il s'est produit quelque chose. C'est ce qui s'est produit pour nous, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est produit pour moi il y a 54 ans, lorsque mes yeux posés sur le sacrifice de Jésus, j'ai pris conscience que c'était pour moi d'une manière personnelle, qu'il donnait sa vie afin que je sois sauvé. Alors, on ne va pas développer ce matin plus que cela le fait du regard porté d'en bas vers le sacrifié. Pratiquement tous les grands peintres de la culture française ont représenté la scène de la crucifixion. Alors, selon les époques, il y avait des styles différents. Certains peintres ont représenté cette scène en faisant ressortir l'aspect choquant, les souffrances. D'autres, dans des écoles plus esthétiques, ont représenté Jésus d'une manière, comment dire, embellie, les boucles d'or, des yeux bleus. C'était la scène embellie. Et puis, un grand peintre, un des maîtres du surréalisme, a eu la pensée de représenter la scène de la crucifixion vue d'en haut. Vue d'en haut. En fait, vue du Père Céleste. Et c'est cet angle que j'aimerais ce matin que nous puissions considérer particulièrement. Parce que la foule était nombreuse qui contemplait l'agonie du Sauveur. Mais dans le ciel, quelqu'un avait les yeux rivés sur le sacrifice de celui qui est son Fils bien-aimé, en qui, il l'a dit à plusieurs reprises, il avait mis toute son affection. Permettez-moi ce matin, frères et sœurs, chers amis, de vous parler du sacrifice de Jésus-Christ vu d'en haut, vu par les yeux du Père. Et dans cette démarche, nous allons commenter cette posture du Père regardant attentivement ce qu'il se passe dans ces heures solennelles de la croix. Nous allons dégager quelques grandes vérités spirituelles qui seront pour nous tous d'une grande importance. Parce que je ne veux surtout pas limiter la crucifixion de Jésus à un simple fait historique, même si historiquement c'est bien sûr tout à fait prouvé, mais c'est beaucoup plus que cela. Je terminerai lors de ma conclusion par cette parole que Jésus adresse. Je ferai la Pâque chez toi. Parce que la volonté de Dieu, c'est que chez toi, chez moi, dans la partie la plus personnelle et la plus intime de chacun d'entre nous, il y ait la Pâque. avec tout ce qu'elle exprime d'intenses bénédictions, faisant de nous des chrétiens vainqueurs, libres, dignes et reflétant la gloire et la beauté du Seigneur. Avant d'arriver à ma conclusion, je m'empresse quand même d'ouvrir une petite parenthèse. Dieu ne te veut pas moribond, fragile, boiteux, infirme, faible. Mais Dieu veut faire la Pâque chez toi, afin, pour conséquence glorieuse, que tu sois un chrétien, une chrétienne, vivant dans toute sa dimension la victoire de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. La croix vue d'en haut. Nous avons lu en introduction, s'agissant des sacrifices de l'Ancien Testament, notamment dans un livre que vous lisez tous les jours, le Lévitique, toute une ordonnance que l'Éternel avait établie de sacrifices. Il faut savoir qu'il y a principalement dans l'Ancien Testament 5 sacrifices, dont 4 sont sanglants. Le 5e, qui est l'offrande, ne l'est pas. Les 5 sacrifices sanglants sont l'Holocauste, le sacrifice d'action de grâce, appelé aussi de prospérité, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité, 4 sacrifices sanglants qui sont l'ombre, hein, qui préfigurent, qui annoncent le sacrifice sanglant de Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Et lorsque Dieu prescrit la pratique de ces sacrifices, ça peut étonner pour une première lecture. Il donne des précisions. On ne pouvait pas faire ces démarches sacrificielles n'importe comment. Il y avait des précisions. Par exemple, l'Holocauste des 4 sacrifices sanglants était le seul qui était totalement adressé à l'Éternel. Sacrifice consumé par le feu totalement. Les 3 autres sont adressés à Dieu, mais il y a une part qui profite aux hommes. Mais l'Holocauste, c'est le sacrifice entièrement dévoué à l'Éternel. D'ailleurs, l'Holocauste devait être ainsi effectué pour celui qui avait du gros bétail. Alors, il choisissait un veau, que sais-je, et il devait offrir un mâle sans défaut à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Et lorsque cet holocauste est consumé par le feu, la Bible nous dit alors une odeur agréable montera jusqu'à l'Éternel. Et tous ces détails, frères et sœurs, nous parlent. Premièrement, un mâle. Est-ce que vous accepterez que je dise que l'évangile de Christ, c'est un évangile viril, par opposition à ce qui est sentimental? Vous savez, en se portant sur le chemin de la croix, Jésus a entendu des femmes pleurer, se lamenter, se frapper la poitrine, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus leur a dit, mais pleurez sur vous. Hein. Parce que tout ça, c'était une expression sentimentale. Mais comme l'a dit un pasteur il y a bien longtemps, le sentiment. Les choses de Dieu ne se situent pas au premier chef dans le domaine sentimental, même si quand même nos sentiments sont bouleversés. Mais ça, c'est une voie de conséquence. Au premier plan, il y a le caractère viril, un animal mâle. Donc, c'est une démarche responsable, mûrie, qui engage toute ma personne, tout mon être. Quand je prends le baptême, je ne le fais pas seulement sur un élément sentimental, ou bien parce que un copain, une copine du groupe de jeunesse l'a fait, je le fais aussi par mimétisme, ou bien parce que papa, maman le sont, alors je le fais aussi par transmission culturelle. Non, non, le baptême et toute la marche chrétienne qui s'ensuit se fait sur la base d'une expérience absolument incontestable, personnelle, réfléchie, mûrie. C'est une décision, c'est un choix, et personne ni rien ne réussira à me détourner de ce choix parce que c'est viril. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, aie une foi virile. D'ailleurs, Paul va écrire aux Corinthiens, soyez des hommes. Hein? Mais dans le texte, on pourrait dire, soyez viril. Parce que le sentiment change comme la girouette au-dessus d'un toit, n'est-ce pas, selon le vent. Il est question des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine. Mais les choses de Dieu ne sont pas conditionnées au changement directionnel du vent, n'est-ce pas? Non, ce que je le crois pour toujours. Que quelqu'un dise amen. Ce que j'ai vécu m'a marqué pour toujours. Je sais qu'il est vivant. Et même quand la tempête, l'avalanche, la succession de malheurs s'est abattue sur Job, il y a une chose qu'il n'a pas reniée. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera, lui, le dernier jour. Parce que c'est toujours lui qui a le dernier mot. Que Dieu soit béni. Et je prie pour que ta foi soit de cette trempe-là. Quelque chose de fort, d'établi, d'indéracinable. Un enfant mâle, sans défaut. Pardon, un sacrifice mâle, sans défaut. Sans défaut, oui. Jésus a quitté sa position de Dieu. Il s'est incarné. Il est venu comme un simple homme. À une exception près, et elle est quand même fondamentale, sans commettre de péché. L'apôtre Pierre dira, lui qui n'a point connu le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ah, quand c'est Jésus qui parle, tu peux le croire. Hein? Parce que la fraude ne se trouve pas dans sa bouche. Paul surenchérit, lui qui n'a pas connu le péché et qui a été fait péché pour nous. Mais le diable lui-même reconnaît que Jésus est sans péché. Les démons sont venus et lui ont dit, nous savons qui tu es, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Même les ténèbres le reconnaissent dans sa sainteté parfaite. Ponce Pilate dira à la foule survoltée, mais je n'ai trouvé chez cet homme aucun mal. Hérode lui-même va confirmer la chose et le brigand dont je parlais tout à l'heure et va reprendre son compère en disant, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc toute l'écriture confirme que le Seigneur Jésus est venu dans son immense amour et pour faire la volonté de son Père, s'incarner en un homme, en un simple homme, sans pour autant commettre le moindre péché, parce que pour me sauver, pour te sauver, il fallait une offrande sans défaut. Que Dieu soit béni. Un animal mâle, sans défaut, à l'entrée de la tente. à l'entrée de la tente d'assignation. Oui, parce que le sacrifice de Jésus a eu comme conséquence, entre autres, celle que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Pas par un courant d'air, c'était un tissu épais et d'en haut jusqu'en bas, les mains de Dieu ont déchiré cette séparation et une entrée est désormais offerte à tous ceux qui croient. Amen. Il est 11 heures. Si jusqu'à cette heure, tu es resté bloqué devant l'entrée, en t'interdisant toi-même de franchir le seuil, parce qu'à tes yeux, accablé par ton péché, ton indignité, tu t'es interdit cela, entends cette bonne nouvelle. Le sacrifice de Jésus déchire le voile et t'offre une entrée dans la présence de Dieu. Amen. Ne sommes-nous pas bouleversés et en même temps émerveillés de voir combien de fois des personnes méprisées, cataloguées, jugées par la société bien-pensante sont quand même entrées dans la présence de Jésus, se sont jetées à ses pieds. Et là, à ses pieds, ont obtenu le pardon de leurs péchés, entendu une parole de salut, de restauration, que le Seigneur soit béni. J'ai envie de dire à quelqu'un, entre. Le voile est déchiré, ne le recoue pas, il est déchiré. L'accès à la présence de Dieu t'est offert. Entre librement par la foi dans ce sacrifice parfaitement suffisant, entre dans l'appropriation et le profit et le bénéfice de l'œuvre de Jésus qui s'est livré pour toi. À l'entrée. Et puis, je disais qu'en conclusion, lorsque cet holocauste avait été consumé par le feu, alors ça équivalait au plan spirituel à l'élévation d'un parfum hautement apprécié qui montait jusqu'à Dieu. La Bible parle des narines du Seigneur, donc Dieu respire. Et Dieu a respiré ce parfum-là. Et je crois, frères et sœurs, qu'en respirant ce parfum, sa juste colère s'est apaisée. Parce qu'il faut savoir qu'en observant l'humanité, l'apostasie, l'iniquité grandissante, l'orgueil de l'être humain, sa méchanceté parfois criminelle, sa fraude, sa corruption, sa tortuosité. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant avant tout. Et quand le Dieu saint voit dans quel état évolue sa création, l'être humain, qu'il avait initialement destiné à une éternité glorieuse et qu'il voit se vautrer dans la souillure, dans la corruption, dans le péché. Alors, écoutez, c'est comme ça, ça ne se discute pas, c'est un fait, Dieu est en colère. Quelqu'un dira, j'aurais pas dû venir ce matin pour entendre parler de la colère de Dieu, mais Dieu est en colère. Quand il entend, que cela soit au plan international ou au plan beaucoup plus intime, les propos, les agissements, les complots, la fraude, le mensonge et toutes sortes de pratiques infectes, j'en reparlerai tout à l'heure, eh bien Dieu est en colère. Mais heureusement, il y a un holocauste. Et heureusement, il y a un parfum qui monte. Et j'ai envie de dire que du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, même si la foule est encore agitée, haineuse, il y a quand même un parfum qui monte. Le parfum, vous savez, on donne des noms aux différents parfums. Vous voyez, ben, il y a un parfum qui s'appelle « Le tout est accompli ». Vous voyez, vous imaginez l'étiquette là sur un joli flacon ?« Le tout est accompli ». Et ce parfum monte jusqu'aux narines du Dieu Saint. Et vous savez quoi ? Alors, ce Dieu Saint qui est le juste juge devient le Dieu de la grâce. Sans se démettre de sa justice, il devient le Dieu de la grâce. À tel point que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a le sentiment d'une abondance de péché dans sa vie? Ton passé est-il profondément marqué par des expériences dégradantes? Eh bien, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé et elle peut surabonder pour ta vie, te sortir de ton péché et t'amener à son glorieux salut. Que Dieu soit béni. Et puis, une précision que j'ai voulu garder à la fin. Un animal mâle, sans défaut, à l'entrée de la tente, devant l'Éternel. Cet holocauste devait être apporté devant l'Éternel. Autrement dit, sous le regard de Dieu. C'était un sacrifice vu d'en haut. Vu d'en haut. Je terminerai ce propos, mes frères et mes sœurs, en essayant de répondre à cette question. Et pourquoi le regard de Dieu est-il avec autant d'intensité tourné vers la scène de la crucifixion? Je vais vous citer le plus rapidement possible 6 réponses qu'il me semble convenir à répondre à cette question. Pourquoi cet intérêt grave et intense porté par Dieu le Père sur la scène de la crucifixion? Premièrement, ça va peut-être vous étonner, mais j'ai mis un mot comme une interjection que Dieu aurait pu exprimer, enfin. Enfin. Enfin, le moment tant attendu, annoncé depuis si longtemps, est venu. Enfin. C'est donc l'accomplissement concret, l'accomplissement de l'élément que je considère, et je pense que vous serez d'accord avec moi, comme le sommet du plan du salut. Enfin, le moment est venu. Ce moment que Dieu lui-même avait annoncé en s'adressant au serpent ancien dans l'Éden, il y aura inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. Tu la blesseras au talon, mais elle t'écrasera la tête. Une annonce que les patriarches vont relayer, qui va se retrouver dans les annonces prophétiques de l'Ancien Testament. Et puis, enfin, c'est là maintenant. Le moment est venu. C'est l'accomplissement. Parce que voyez-vous, le sacrifice de Jésus-Christ, ça n'est pas un événement malheureux d'une erreur judiciaire. C'est pas quelque chose de fortuit, d'anodin. Non, c'est pas le pouvoir politique de l'époque qui a eu raison du Dieu éternel. Non. C'est annoncé depuis 4000 ans et enfin, c'est en train de se réaliser. C'est une heure aux conséquences éternelles et essentielles. La deuxième réponse que je me suis donnée, c'est l'enjeu. L'enjeu de ce qui s'est passé à la crucifixion de l'agneau de Dieu. L'enjeu. Le verset le plus célèbre des évangiles, Jean 3, 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a une dualité entre périr, la mort définitive, avec ses tourments éternels, et puis il y a la vie éternelle. Et l'enjeu du sacrifice de Jésus, mes frères et mes sœurs, n'est pas moins que ça. C'est un enjeu entre la vie et la mort. Et l'enjeu, c'est que par le sacrifice de Jésus, la vie va triompher de la mort. Que Dieu soit béni. C'est un enjeu suprême. Il n'y en a point de comparable. La Bible nous dit que nous étions morts dans nos péchés, mais il nous a ressuscités, ramenés à la vie. Alléluia. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais, oh, qu'il est beau ce mais. Le don gratuit de Dieu, autrement dit le sacrifice de Jésus à la croix, c'est la vie éternelle. Un grand merci à Dieu, le Père, d'avoir donné son Fils bien-aimé il y a 2000 ans à Golgotha, parce qu'au prix de ce sacrifice, la mort a perdu ses droits et la vie a pris l'ascendant. La domination avec Dieu, c'est la vie qui triomphe. Amen. L'enjeu entre la lumière et les ténèbres. La Bible nous dit que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. L'enjeu entre la liberté et l'esclavage. Il y a quelqu'un parmi nous qui très sincèrement vit une expérience qui l'avilit, le dégrade à ses propres yeux. Quelqu'un qui voudrait plaire à Dieu et qui n'y arrive pas parce que quelque chose le tient lié. Eh bien, ce matin, à la prédication de Jésus-Christ crucifié, tes liens peuvent être rompus. Amen. Et d'esclave, tu peux devenir libre. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas arrivé quelquefois que des amis viennent et nous présentent un paquet de cigarettes en disant « Vous en grillez une ?» Et on leur dit « Non, même pas une, pas deux, rien. Ah, mais vous ne fumez pas ?»« Ben non, on fume pas. » »« Ah, mais c'est votre religion qui vous l'interdit ?» Non, non, non. C'est le Seigneur qui nous a désintoxiqués, qui nous a libérés. Je baptisais un jour un homme d'une cinquantaine d'années. Ses collègues au travail l'avaient surnommé Mégot. Parce qu'il fumait deux paquets de cigarettes gitanes maïs. Et je sais pas si ça existe encore. J'ai fumé une seule cigarette dans toute ma carrière. Ça m'a fait tousser. Je me suis dit, ils sont bêtes. Hein, et plus jamais j'ai touché à ça. Hein. Mais lui, il fumait ces deux paquets, plus un paquet de cigares, mégot. Et puis un jour, il entend l'évangile, lors d'une cure à Châtel-Guyon, un chrétien lui parle de Jésus, cet homme reçoit l'évangile, il se convertit, il est guéri d'un cancer au rectum, et il est libéré de sa servitude sévère au tabagisme. Jésus libère. Amen. Jésus guérit. Il peut le faire pour vous aussi. C'est un vieux cœur tellement merveilleux. Hein. L'enjeu entre le ciel et l'enfer, mon frère, ma sœur, mon ami qui m'écoute ce matin, il y a un enjeu qui engage ton éternité, ton présent, oui, mais aussi ton éternité, entre le ciel et l'enfer. Dieu te veut au ciel. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Dieu te veut au ciel en donnant sa vie à Golgotha. Jésus ouvre le ciel et une espérance glorieuse, l'enjeu. J'ai envie de dire l'enjeu c'est toi. L'enjeu c'est moi. j'ai envie de dire, et ne me traitez pas d'anti-biblique ou d'extra-biblique, parce que c'est, je le crois, tout à fait biblique, quand le Père porte ses regards sur la crucifixion de Jésus, il me voit par anticipation. Parce que Ésaïe 53 parle de la postérité qui sera enfantée grâce au sacrifice de Jésus. Il te voit là, il te voit. Il y a un enjeu. Oui. Dans les desseins de Dieu, Jean-Marc Tchirkéchian était présent déjà. J'étais pas né, mais dans les desseins de Dieu, j'y étais. Tu y es aussi. Tu es l'enjeu pour lequel Christ a donné sa vie. Et moi, je prie pour que ce matin, si ce n'est pas fait encore, quelqu'un donne sa vie à Christ, se convertisse de tout son cœur et se prépare à prendre le baptême, à s'engager avec Jésus, à s'attacher à lui définitivement et envers tout et malgré tout, que Dieu soit béni. Troisième réponse que je me suis donnée, pourquoi ce regard de Dieu vers le Christ crucifié ? Je parlerai de l'émotion du Père. L'émotion du Père. En préparant ce message, je me suis remémoré le sacrifice auquel Abraham a été invité à offrir Isaac. Vous connaissez cette scène poignante. Abraham, tôt le matin, se lève et prépare tout ce qu'il faut et il se met en route avec Isaac, son fils, un serviteur. Et ils arrivent pas loin du Morija et ils gravissent maintenant, ils arrivent en haut du Morija. Abraham confectionne un autel, il y met le bois pour le feu. Et puis, il prend son fils, Isaac. Mais vous savez, il ne le prend pas comme on porterait un enfant de 3 ans, hein, parce que Isaac, il n'a pas 3 ans, il n'a pas 8 ans. Hein. Probablement, il est au moins un adolescent bien avancé, sinon un jeune homme. Hein. Et il l'offre. Et là, mes amis, j'y étais pas, hein, mais c'est comme si j'y étais. J'imagine les deux regards qui se croisent. Isaac qui regarde son père et son père qui regarde Isaac. Je me demande si à Gethsémané, il n'y a pas eu justement dans cette prière instante de Jésus cet échange. Père, si c'était possible d'éloigner cette coupe de moi. Et le père est là et il voit que son fils a besoin d'être fortifié. Alors il envoie un ange qui fortifie Jésus. Et là, sur le Golgotha, il y a cette attitude. Le Père est en train d'offrir le Fils dans lequel il avait mis toute son affection. L'idée d'envoyer simplement un ange, même un archange, n'aurait pas suffi à accomplir l'expiation des péchés. Il fallait un sacrifice à la hauteur. Et seul Jésus correspondait aux normes divines. C'est un regard d'émotion. Mais en même temps, ça peut surprendre. Ça a provoqué en Jésus un sursaut, une exclamation. La réalité que cette scène nous révèle, en même temps, c'est celle de l'horreur du péché. Parce qu'à un moment donné, Dieu a détourné ses regards. Non pas par abandon, c'est impossible, mais comme pour exprimer la dimension insupportable du péché. Vous savez, ce péché qu'on banalise, tout le monde le fait, tout le monde ment, tout le monde fait comme ça, c'est le péché. Quelquefois même, il est valorisé, le péché, dans le monde. Il est présenté comme un atout. Bon, certains ont inventé le péché mignon. Et d'autres ont catégorisé, il y a le péché véniel, péché capital. Mais pour Dieu, c'est le péché. Horrible, insoutenable. Je me demande si vous et moi n'avons pas besoin de son collyre pour désinfecter nos yeux, afin que nos yeux soient de la même sensibilité que ceux du Dieu Saint. Amen. Que le sacrifice de Jésus ce matin contribue peut-être à nous redonner la conscience de la laideur du péché, de la honte du péché. Il y a eu tout cela. En cinquième réponse, j'ai écrit sur mon petit feuillet que le Père, en regardant d'en haut le sacrifice de Jésus, est en train d'estimer le prix payé. Le prix payé. Le salut est gratuit pour nous, frères et sœurs, mais il a coûté à Dieu. Il a coûté à Dieu. Le prix payé. Et quel prix ! Quel prix ! Et puis je termine avec le sixième élément de réponse que je me suis donné. Pourquoi le Père a-t-il ses yeux rivés vers le sacrifice de Jésus ? Eh bien, je me suis dit qu'il y a dans ce regard du Père la lueur brillante de la perspective glorieuse. Le Père, oui, est concentré sur cette scène, mais pour Dieu, le Père, ça n'est pas la fin de tout. Rappelez-vous, il y a 2, 3, 4 semaines, je vous parlais de la manière de Dieu de découper le temps. Nous, la journée commence un matin, finit un soir, mais pour Dieu, il y a un soir et puis il y a un matin. Et quand Dieu regarde, pour lui, ce qu'il est en train de se produire, c'est un soir, mais Dieu se réjouit déjà parce qu'il va y avoir un matin. Et le matin en question, eh bien, c'est le dimanche matin de la résurrection. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas un regard défaitiste, pessimiste, désabusé. C'est un regard solennel, grave, où le Père est empoigné dans ses sentiments profonds, mais en même temps, c'est un regard qui déjà annonce un matin. Lorsqu'au matin, les femmes sont allées pour embaumer le corps inerte de Jésus, elles ont trouvé la pierre roulée et le tombeau vide. Allez à Jérusalem, allez en Israël, visitez le tombeau du Christ. Je vous paye pas le billet. Mais il est vide, et ce vide parle et nous proclame un message. C'est celui que l'ange a dit aux femmes: ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Amen. Il est vivant. Et donc le Père a ce regard déjà éclairé, réjoui. Allez, bientôt, le soir va s'achever. Cet épisode insupportable va bientôt arriver à son terme, à ce fameux « tout est accompli ». Mais tout ne s'arrête pas là. Il y a le matin, mon frère, ma sœur, oh que nos cœurs tressaillent de joie et d'espérance. Jésus est vivant. Il est ressuscité, gloire à Dieu. Alors tes prières ne sont pas vaines, ta foi n'est pas vaine, ta persévérance, il la rétribuera par des expériences de miracles. Il est vivant, alors tout est possible. Il est vivant. Les situations que les hommes condamnent, lui, d'un mot de sa bouche, les transforme en délivrance. Il est vivant. Notre Dieu est vivant. Oh, que son nom soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit loué. C'est le Seigneur vivant. La pierre est roulée, la mort est vaincue, le diable est dépouillé. Voyez-vous, il s'est passé dans ces heures de la crucifixion des réalités spirituelles essentielles. La Bible nous dit que Christ, par la croix, a dépouillé les dominations. Amen. L'enfer est en train de trembler. Le diable est dépouillé. Les démons perdent leur puissance à l'encontre de tous ceux qui mettent leur foi dans le sacrifice de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Ne crains pas le diable. Reste conscient de ses desseins malveillants. Mais confesse que ta vie, placée au bénéfice du sacrifice de Jésus, sera préservée de tout mal. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Ma conclusion, et après cette conclusion, nous partageons ensemble le pain et le vin, et la suivante. J'ai mentionné tout à l'heure cette parole de Jésus, « Je ferai la Pâque chez toi ». Et je prie pour que ça ne soit pas un sermon de plus ce matin, mais qu'à travers cette parole qui est la parole de Dieu, la Pâque viennent accomplir au plus profond de ton être son œuvre, sa réalité. Il y a besoin certainement dans ta vie personnelle d'une restauration, besoin d'un puissant encouragement, besoin que tu sois débarrassé définitivement de certains schémas qui te tirent vers le bas, d'une amertume qui gangrène ta joie, d'une culpabilité qui perturbe ta paix. Il y a des besoins cachés. Et on sait bien les cacher, nous. Hein, on sait les cacher. Ils ont essayé, nos parents, avec des feuilles de figuier, de cachet. C'est pas costaud. Hein. Mais Dieu ne se retrouve pas dans cette démarche de cachotterie, de cachet, non. Dieu s'emploie à régler à la racine tous les problèmes qui pourraient se trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Ah, je prie pour que ce matin, nous vivions une Pâque particulière qui va nous permettre de repartir, transformés, libérés et profondément imprégnés des vertus qui ont conduit Jésus au sacrifice. Parce que ma Bible me dit « Ayez en vous les sentiments » qui était en Jésus-Christ. Vivre la Pâque, c'est ça aussi. C'est démontrer les mêmes sentiments. Vous savez, quand j'entends Jésus dire à son Père, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté », je dois comprendre que cette prière doit devenir ma prière aussi. Quelqu'un va dire « Amen » ? Dieu appréciera bien plus que les efforts humains, bien plus que toutes les tentatives humaines, cette prière d'un cœur sincère qui va t'amener à lui dire « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et à partir de là, reste dans cette position, dans cette résolution de tout mettre en œuvre pour que la volonté de ton Père s'accomplisse dans ta vie et à travers ta personne. Alors, je ne vais pas prendre simplement ces emblèmes parce que c'est dimanche matin, mais je veux les prendre en laissant le Saint-Esprit m'éclairer sur tous ces aspects spirituels et profonds. Ces deux emblèmes m'apportent un message essentiel, essentiel, qui m'interdit toute distraction. Non, non, je veux avoir conscience en prenant ces emblèmes qu'il y a dans la Pâque une puissance de résurrection, une puissance de guérison. Alléluia! Tout à l'heure, Tania m'a demandé la prière, mais le Seigneur te guérit, Tania. Alléluia. Amen. Et d'autres, le Seigneur veut déployer dans votre corps, dans votre âme, dans votre sphère familiale ou professionnelle, sa puissance secourable. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous donne de vivre cette Pâque-là ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que